journal de la mi-journée sur Europe 1, c'est jusqu'à 13h. Et avec vous aujourd'hui, Sophie Tussaud. Bonjour Sophie.
Bonjour Marlène, bonjour à tous.
Les messes reprendront ce dimanche 24 mai, à condition que les communautés soient prêtes à vivre sereinement et en respectant les consignes sanitaires indispensables.
Masque obligatoire, désinfection des mains, filtrage à l'entrée des lieux de culte. Les cérémonies religieuses peuvent reprendre dès aujourd'hui, mais à condition de respecter les règles sanitaires très strictes. Deux mois après le premier tour des municipales, les conseils municipaux élisent les maires et adjoints. Gérald Darmanin est réélu à Tourcoing et va cumuler deux mandats, ce qui lui a valu ce matin une attaque en règle de l'opposition.
Monsieur Darmanin, pendant cette campagne, oui, vous avez menti consciemment aux électeurs, puisque vous restez ministre. Maire à temps partiel, ministre à temps partiel.
Un long week-end, beaucoup de départs. Les Français ont-ils joué le jeu et respecté la règle des 100 km ? Nous aborderons avec Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO, la réalité du terrain pour la police. Voilà maintenant 13 jours que les Français sont déconfinés. Les autorités restent prudentes, mais les chiffres sont encourageants. Patrick Peloux, le président de l'Association des médecins urgentistes de France, nous dira s'il constate ou pas une reprise de l'épidémie et comment la situation se déroule actuellement dans les hôpitaux. Les amoureux de tennis le savent bien, Roland Garros aurait dû débuter cette semaine, mais le tournoi n'est pas annulé pour autant, juste déplacé, et une date a déjà été arrêtée.
C'est un peu prématuré d'en parler maintenant, mais a priori, on serait à cheval entre la fin du mois de septembre et le début du mois d'octobre.
À la météo avec Valérie Darmon qui nous dit que les éclaircies reviennent. Et puis vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Fabienne Lemoyle vous emmènera dans les coulisses d'Europe 1, la découverte d'un incroyable documentaire sonore réalisé par la rédaction sur le confinement.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Fini l'interdiction totale de réunions de culte. Après plus de deux mois d'arrêt, les cérémonies religieuses peuvent reprendre dès aujourd'hui. Décision du gouvernement après l'injonction du Conseil d'État cette semaine. Un décret a été publié il y a quelques heures au journal officiel. Pierre Herbulot, les fidèles devront respecter des règles très strictes.
Oui, des règles que l'on commence à connaître par cœur. Port du masque et lavage des mains obligatoires. Les entrées dans chaque lieu de culte doivent également être régulées. Une limite permettant de faire respecter la distanciation sociale doit être fixée pour chaque mosquée, chaque synagogue, chaque temple, chaque église. Pour Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, la sécurité passe avant tout.
Dans le diocèse de Rouen, les messes reprendront ce dimanche 24 mai, à condition que les communautés soient prêtes à vivre sereinement et en respectant les consignes sanitaires indispensables. Pour moi, le culte reprend progressivement. Et bien entendu, les fidèles doivent réfléchir si elles-mêmes sont en état de santé, d'âge, pour participer au culte, car nous savons que toute réunion est aujourd'hui un risque.
Malgré les contraintes, ces quelques catholiques rencontrés devant l'église Notre-Dame de Boulogne sont heureuses de pouvoir retourner prier ensemble.
C'est important, l'alternative internet était vraiment super, mais de se retrouver au sein d'une, dans une église, c'est un havre de paix en fait qu'on ne connaît pas forcément à la maison.
Il est important que la vie reprenne pour ceux qu'ils veulent, sous les formes qu'ils veulent.
Je suis très heureuse, je vais avoir une belle journée.
Des lieux de culte qui rouvrent, mais qui pourraient refermer aussi très vite sur décision des préfets si la règle ne sont pas respectées.
Merci Pierre Herbulot. Et aux États-Unis également, Donald Trump a appelé à la réouverture immédiate des lieux de culte. Le président américain a affirmé que les églises, synagogues et mosquées étaient des lieux essentiels qui prodiguaient des services indispensables. La vie démocratique reprend également aujourd'hui, jour J pour les maires élus dès le premier tour des municipales le 15 mars dernier. À compter d'aujourd'hui jusqu'à jeudi, les conseils municipaux entrent en fonction dans plus de 30 000 villes. Ils peuvent désigner les maires et leurs adjoints. Parmi les premiers à avoir pris ses fonctions, Gérald Darmanin a été élu maire de Tourcoing ce matin. Contrairement à la règle, il a été autorisé à cumuler les casquettes de maire et de ministre. Jean-Rémy Boudot.
Monsieur Darmanin est élu maire de Tourcoing.
Pas d'embrassade, pas de poignée de main, crise du Covid oblige, Gérald Darmanin se lève et salue en gardant ses distances son conseil municipal réuni à huis clos. Gérald Darmanin, désormais maire de Tourcoing et ministre des Comptes publics. Rien d'interdit par la loi, mais une pratique qui ne se fait plus depuis les années Jospin et que ses opposants municipaux lui ont immédiatement rappelé. Le RN Rémi Merin.
Maire ou ministre, il faut choisir. Ah non. Monsieur Darmanin, pendant cette campagne, oui, vous avez menti consciemment aux électeurs puisque vous restez ministre, maire à temps partiel, ministre à temps partiel.
Le divers gauche, Franck Talpert.
Il est pour nous inconcevable et démocratiquement dangereux que vous, qui avez fait votre campagne sur le choix de Tourcoing, puissiez en conscience, en responsabilité, accumuler ces deux fonctions.
Après une série de votes pour installer son équipe, Gérald Darmanin prend la parole et balaye la critique.
J'entends que vous souhaitiez me garder pour vous tout seul. Vous m'aimez sans doute tellement que vous souhaitiez qu'à plein temps, je m'occupe de vous. Qui ne s'est pas posé la question, et le choix de Tourcoing n'était pas un slogan de campagne, puisque j'ai tenu ma promesse et je suis maire devant vous.
Pour l'heure, c'est Emmanuel Macron en personne qui l'a autorisé à cumuler, au moins pour un temps, confie le ministre. C'est l'option partagée au sein de l'exécutif. Double casquette jusqu'à un très prochain remaniement.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Et pour les autres candidats qui n'ont pas pu être élus en mars dernier, le second tour des municipales se tiendra le 28 juin et avec des règles sanitaires strictes pour éviter une propagation du virus et avec une campagne à minima. Une décision réversible et soumise à l'évolution de l'épidémie, a précisé Édouard Philippe hier. Ce second tour se tiendra dans plus de 5000 communes. C'est le week-end de l'Ascension. Cette semaine, il a fait extrêmement beau. Les Français sont sortis en masse pour profiter du soleil et pour partir quelques jours. Bonjour Yves Lefebvre, vous êtes secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Vous aviez émis beaucoup de doutes sur la règle des 100 km pour les déplacements. Comment s'est déroulée la vague de départ ce week-end ?
C'est passé, assez globalement bien passé. Pourquoi ? Parce que les Français ont quand même fait preuve d'énormément de civisme et mes collègues ont également fait preuve de beaucoup de discernement. Vous savez, la barrière des 100 km, elle est à vol d'oiseau, mais on n'a pas de capacité à la mesurer. Donc il faut faire appel au bon sens et mes collègues ont su, comme dans chaque situation, faire preuve de parfois de complaisance vis-à-vis de certaines personnes qui auraient pu légèrement dépasser la barrière des 100 km. Voilà, il faut tout mettre ça dans un cadre général et ne pas rentrer dans une doctrine trop fermée qui serait contraire à l'esprit du déconfinement d'ailleurs.
Alors comment faites-vous pour ces contrôles ? Sur quels critères vous choisissez les voitures ?
On choisit les critères sur le critère, je dirais, assez, qui est devenu très subjectif, du numéro au bout de la plaque d'immatriculation, qui ne représente in fine plus rien réglementairement, parce que vous pouvez très bien être domicilié sur Paris et avoir les deux derniers chiffres, que sais-je, dans les Landes, dans le Finistère ou en Corse. Donc auquel cas, en général, c'est quand même relativement à peu près bien respecté ça. Donc mes collègues, je dirais, ciblent les véhicules par rapport justement aux chiffres sur les plaques d'immatriculation. Et ensuite, avec la vérification du certificat d'immatriculation du véhicule et accessoirement d'une attestation permettant de démontrer où est le domicile. Mais vous savez, les contrôles se font avec parcimonie. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas eu de règles, et peut-être fort heureusement très strictes en la matière. Et puis la charge d'emploi à côté ne permet pas le fameux redéploiement ou déploiement des forces de l'ordre destinées à ces contrôles. On a trop de charges à côté. La délinquance est revenue comme ce qu'elle était avant le confinement. Et on a aussi malheureusement de plus en plus de violences urbaines à gérer, et pas qu'en région parisienne.
Oui, bien sûr. Et en plus de tous ces problèmes que vous aviez avant le confinement, vous avez également les règles d'après-confinement, de déconfinement à faire respecter, comme par exemple la distanciation sociale. On a vu ces derniers jours, par exemple à Paris, beaucoup d'apéros en plein air, des gestes barrières qui ne sont pas respectés. Et là aussi, c'est la police qui intervient pour faire respecter ces règles. Est-ce que ça crée des tensions avec la population ?
Ça, jusqu'à présent, ça n'a pas créé de tension. Pourquoi ? Parce que les policiers ont eu ce qu'ils souhaitaient depuis très 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 longtemps. Ça fait plusieurs décennies que nous n'avions plus cette capacité de discernement et cette capacité, je dirais, d'adaptation face à une situation donnée sur le terrain. Donc ça n'a pas créé à proprement parler de tension. On l'a vu sur l'esplanade des Invalides, sauf erreur de ma part, où les collègues, sont, mes collègues sont intervenus avec un mégaphone. On l'a vu dans d'autres endroits. Prenez, pour exemple, ce qui s'est passé sur le bord du canal Saint-Martin, où mes collègues sont intervenus, mais ça a été bon enfant. Pourquoi ? Parce que derrière le policier, derrière le policier ou le gendarme, il y a un homme, il y a une femme qui lui aussi aspire à des moments de détente. Alors, effectivement,
qui lui aussi a été confiné, forcément.
Sanitaire, mais bon, ça se fait. Non, ça se passe globalement très très bien, sans aucune tension, et on ne peut que s'en féliciter. Bon,
merci Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. La filière du livre en danger à cause de l'épidémie. Dans une tribune, 600 auteurs, éditeurs et libraires réunis dans un collectif demandent à Emmanuel Macron d'agir. Le gouvernement, de son côté, dit travailler à un plan de soutien. Le nombre de malades en France continue de diminuer. 44 patients de moins en réanimation en 24 heures.
Santé publique France a comptabilisé 74 décès de plus depuis jeudi, pour un total de près de 28 300 depuis le début de la crise. Nous ferons un point sur l'épidémie avec Patrick Peloux, le président de l'Association des médecins urgentistes de France, juste après ce journal. Toujours beaucoup de questions autour de l'efficacité de la chloroquine. Une étude publiée par la revue britannique scientifique The Lancet affirme même que la molécule serait nocive, voire qu'elle pourrait augmenter le risque de mortalité dans certains cas. Les précisions de Caroline Baudry.
Les chercheurs ont épluché les dossiers de 96 000 malades de plusieurs centaines d'hôpitaux. Parmi eux, 15 000 avaient été traités avec des combinaisons différentes à base de chloroquine et d'hydroxychloroquine. Et bien résultat, pour les auteurs, avec ce traitement, le risque de mortalité augmente fortement. Il peut être jusqu'à 45% plus élevé chez les patients traités que chez les malades présentant déjà des facteurs de risque. Ils ont également découvert que les problèmes de rythme cardiaque étaient plus fréquents avec la prise de ces molécules, 5 fois plus élevés. Le lien de cause à effet n'est pas directement prouvé, alors les auteurs demandent une confirmation urgente via des essais cliniques. En tout cas, pour eux, les preuves statistiques sont robustes. Ces traitements n'améliorent pas l'état des malades. Ils recommandent donc de ne pas les administrer en dehors des essais cliniques, alors que plusieurs pays comme le Brésil parient sur leur usage.
Caroline Baudry, en parallèle à cette étude, une lueur d'espoir avec un autre médicament expérimental. 3 semaines après l'annonce par la Maison-Blanche de la probable efficacité du remdesivir, un essai clinique effectué sur 1 millier de malades dans 10 pays, confirme l'effet positif de cet antiviral sur des patients hospitalisés. Une injection par jour pendant 10 jours a accéléré leur rétablissement. Roland Garros, jouer à l'automne et la pandémie qui pousse les scénaristes à écrire. On en parle juste après une courte pause. À tout de suite. Il est tout juste 12h43, la suite du journal sur Europe 1, Sophie Tussaud. L'épidémie de coronavirus a chamboulé le calendrier des événements culturels et sportifs, comme le Festival de Cannes qui devait se tenir en ce moment n'a pas lieu. Le tournoi de Roland Garros qui aurait dû débuter ce week-end ne se joue pas. Toutefois, il n'est pas annulé. Il aura bien lieu cette année, cet automne. Guy Forget, le directeur de Roland Garros, l'a confié ce matin sur Europe 1.
L'annonce officielle n'a pas encore été faite. Il y a plusieurs hypothèses. Il y a celle, effectivement, qui a été annoncée du 20 septembre avec les qualifications et le tournoi et les 15 jours suivants. On sait que les qualifications durent une semaine. Donc, on aurait peut-être une semaine de flottement. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit être annoncé. C'est un peu prématuré d'en parler maintenant, mais ça se fera autour de entre le 20 et le 27. Vous savez qu'aujourd'hui, on travaille de manière très, très proche avec l'ATP, la WTA, la Fédération internationale, pour faire une annonce finalement globale de ce que serait le circuit en fin d'année. Voilà, mais a priori, on serait à cheval entre la fin du mois de septembre et le début du mois d'octobre.
Guy Forget, invité de la matinale de Bernard Poiret sur Europe 1, qui espère, malgré la pandémie, pouvoir accueillir du public. La période que nous vivons actuellement est inédite, semblable à ce qu'on voit dans des films de science-fiction, et forcément, ça donne des idées de scénarios, Mathieu Charrier, des deux côtés de l'Atlantique.
Imaginez, nous sommes en 2022. L'actuelle pandémie de Covid-19 ne s'est en fait jamais arrêtée car le virus mute régulièrement. Il est devenu incontrôlable. La population du monde entier est alors confinée et ont le droit de sortir seulement ceux qui ont été malades, guéris et qui sont donc immunisés. C'est le résumé de Songbird, dont le tournage devrait commencer mi-juin à Los Angeles. On ne connaît pas encore le casting, mais c'est Adam Mason, spécialiste du film d'horreur, qui devrait le réaliser. Un autre film, lui, est déjà prêt. Le titre est très clair, Corona. Il avait été tourné à Vancouver en février, lorsque l'on appelait le Covid-19 le virus chinois. Et justement, Corona traitera du racisme en racontant l'histoire de 7 voisins coincés dans l'ascenseur de leur immeuble et qui vont suspecter l'une des leurs, une chinoise, d'être porteuse du virus. La bande-annonce est déjà prête.
Do you understand that there's a virus going around in this building?
Il ne reste plus qu'à fixer une date de sortie pour ce film lorsque les cinémas rouvriront. Enfin, en France, Danny Boone a déjà annoncé qu'il a écrit, pendant le confinement, une histoire qui raconte la vie d'un immeuble confiné, des commerces au rez-de-chaussée jusqu'aux chambres de bonne. Objectif pour le comique français, le tourner d'ici la fin de l'année, pour une sortie donc en 2021.
Mathieu Charrier, le monsieur cinéma d'Europe 1. Il nous reste à voir à présent le temps que nous réserve ce samedi.
Pour une installation soignée de vos fenêtres, portes et volets, faites confiance à ArcadeB, produit de fabrication française. ArcadeB vous présente la météo.
Et on peut dire, Valérie Darmon, que les éclaircies gagnent du terrain au fil de la journée.
Absolument, Sophie. Déjà sur le nord et l'ouest de la France, de la Bretagne en passant par la Normandie jusqu'aux Hauts-de-France et Pays de la Loire où les éclaircies gagnent du terrain sur les passages nuageux, très sensiblement d'ailleurs. Le risque d'averse est assez faible avec des rafales à 60 km/h sur le littoral de la Manche et 40 dans les terres. Donc, en revanche, les températures ne sont pas bien hautes. Du bassin parisien au Grand Est, le temps s'améliore aussi avec le retour d'un temps plus sec par rapport à ce matin. Et de belles éclaircies là aussi, ce qui n'est pas le cas en Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes, où la perturbation apporte un passage de pluie ou d'averse tout l'après-midi. Les précipitations prennent même un caractère orageux entre le Massif central et les Alpes. De la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie, même chose, avec moins de pluie. En région PACA et en Corse, pas de changement, le beau temps domine et c'est seulement en toute fin de journée que le temps va devenir plus instable sur l'arrière-pays provençal et le sud des Alpes, avec donc un risque d'ondée. Je vous donne tout de même quelques maximales, donc moins élevées que ces derniers jours, entre 16 à Cherbourg et 29 degrés à Manosque. À Paris, il fera 22 degrés, Nice 23, Charleville, Angoulême et Bourges 20 degrés.
Merci Valérie Darmon. 13 jours de déconfinement, l'épidémie reprend-elle? Doit-on s'inquiéter des clusters? Pour en parler, nous serons dans un instant avec Patrick Pelouf, le président de l'Association des médecins urgentistes de France. Midi 50, c'est le journal de la mi-journée. La suite avec vous, Sophie Tussaud.
Cela fait maintenant 13 jours que nous sommes déconfinés. Le nombre de malades continue de décroître. Olivier Véran dit qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions et qu'un premier bilan ne pourra être tiré qu'à la fin du mois. Bonjour Patrick Pelouf.
Bonjour.
Vous êtes président de l'Association des médecins urgentistes de France. Vous, vous dites qu'il n'y a pas de signe d'une deuxième vague.
C'est-à-dire, c'est pas le signe tel qu'on nous prédisait en disant qu'il allait avoir un retour de ce qu'on a connu fin février et au mois de mars. Et en fait, il n'y a pas de signe. En fait, comme vous dites, il y a une baisse des appels concernant le coronavirus, des signalements, et c'est concordant avec les signaux et les indicateurs qu'il y a en médecine de ville, comme à l'hôpital. Donc, il faut être optimiste. C'est-à-dire peut-être qu'on est dans une nouvelle phase de l'épidémie. Ça ne veut pas dire que l'épidémie est finie. Il faut toujours mettre des masques, se laver les mains et avoir une distanciation sociale. Il faut que tout le monde le fasse. Moi, à mon avis, il faut garder les masques en permanence. Et c'est...
Patrick Pelouf, on vous a perdu. Oui, vous êtes là.
Oui.
Oui. Je n'ai pas entendu la fin de votre dernière phrase.
Non, il faut garder les habitudes de la barrière qui est faite, de la barrière sanitaire, c'est-à-dire il faut continuer à porter des masques, se laver les mains et avoir la distanciation sociale, et c'est comme ça qu'on va arrêter l'épidémie.
Vous disiez qu'on est dans une nouvelle phase de l'épidémie, qu'est-ce que vous entendez par là?
En fait, on est sur la décroissance, on a eu le pic, vous avez suffisamment relayé le fait qu'il y avait le plateau, etc. Et donc on est dans la descente de la courbe. Les modèles mathématiques, il faut quand même, les modèles mathématiques qui avaient été faits par l'INSERM disaient, voilà, on saura dans les 15 jours après le déconfinement s'il y a une remontée ou pas. Et là, on est en fait sur toutes les statistiques basses, en fait. Donc il faut respecter les mathématiques. Et en fait, voilà, pour l'instant, il se passe rien de spécial. Mais c'est très important que les gens continuent à garder cette citoyenneté et de garder ces habitudes de porter le masque tant qu'on n'a pas dit que l'épidémie était terminée.
Patrick Pelouf, il y a beaucoup de clusters de foyers épidémiques découverts, de plus en plus, dans les abattoirs, les commissariats, les foyers de jeunes travailleurs. Il y en a une trentaine au total. Comment vous les expliquez?
Alors, nous sommes avec l'arrivée d'une nouvelle maladie sur Terre. Voilà, le coronavirus. Donc du coup, il y a des foyers, comme vous le dites, il y a des foyers qui apparaissent comme ça ponctuellement. Ce qu'on ne faisait pas au mois de décembre, janvier, février, c'est-à-dire qu'on s'est peut-être trompé d'ailleurs au début de la gestion de l'épidémie, on n'avait pas surveillé ces foyers. Là, ils sont surveillés par les agences régionales. On piste les gens qui ont été en contact avec les gens malades, ils sont testés, on met des mesures sanitaires et on les isole. Alors en fait, ce n'est pas la première fois qu'on fait ça, parce que vous avez plein de maladies sur lesquelles on a une surveillance particulière, par exemple les méningites, où vous faites souvent les échos de foyers de méningites dans les boîtes de nuit ou dans les écoles, etc. Donc en fait, on prend cette habitude, c'est-à-dire qu'en fait, on nous signale un foyer, il y a des gens malades, pof, on teste tout le monde et on remarque que d'un coup, Ben oui, il y a un foyer, il y a 10 personnes qui l'ont.
Donc les brigades sanitaires contact Covid sont un moyen efficace d'éviter la propagation ?
Alors, je ne supporte pas du tout le mot brigade sanitaire parce qu'il y a un côté dictature sanitaire qui me met hors de moi, d'accord ? C'est juste des habitudes qui sont faites, voilà. Des équipes, d'accord ? C'est quelque chose qu'on a déjà fait, qui sont des mesures de santé publique, d'accord ? Ce ne sont pas des mesures de brigade qui embrigaderaient et qui fliqueraient la population. Ça, je ne supporte pas. On doit être garant du secret médical, de la liberté de chacun. La médecine, ce n'est pas une dictature. Et donc, par conséquent, en effet, c'est quelque chose qui est surveillé comme on fait, comme je vous le disais, comme on le fait d'habitude sur les méningites, la tuberculose, par exemple.
Et pour autant, tous ces foyers épidémiques... Sont-ils inquiétants ? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ?
Non, l'épidémie n'est pas terminée. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de deuxième vague telle que certains la décrivaient en disant que ça va être épouvantable et pire que la première. Ça ne veut pas dire...
Ça ne veut pas dire...
Vous voyez comme oui. Ça, hein. Ça peut continuer un petit peu. Ça va continuer un petit peu de toute façon, bien sûr.
Patrick Peloux, lundi débute le Ségur de la santé. Vous en attendez quoi ?
Tout. Parce qu'on a faim, on a soif de mesures qui font que on rénove en profondeur l'hôpital pour qu'il soit beaucoup plus humaniste, pour rouvrir des lits, pour embaucher du personnel à la fois dans les hôpitaux et dans les EHPAD, pour faire que les carrières soient attractives pour les personnels, c'est-à-dire l'augmentation des salaires pour l'ensemble des personnels. On attend beaucoup de choses. On attend, je pense que s'il fallait prioriser...
Oui, la première chose, ce serait quoi ?
Voilà, la première chose, c'est l'embauche et l'attractivité des carrières. C'est ces deux choses-là. Parce que là, vous voyez, là, c'est le titre du Parisien ce matin en disant qu'il y a un risque de canicule cet été. Bon, les équipes, on a tout donné, là. On est crevé, on a tout donné pour sauver le maximum de personnes de cette épidémie. Donc il faut que les personnels puissent prendre des congés. Mais malheureusement, si jamais on a des afflux massifs parce qu'il y a une canicule et qu'on se retrouve avec des afflux à nouveau massifs cet été, bah, il faut avoir du personnel dans les EHPAD, dans les hôpitaux.
Donc il faut embaucher plus d'infirmières, plus de personnel soignant et mieux payé.
Et mieux payé parce que, si vous voulez, ce n'est pas tolérable que les infirmières en France soient au sixième rang de l'OCDE sur l'échelle des salaires. Les infirmières turques et croates sont mieux payées.
Mieux payées, c'est quoi pour vous, à peu près ?
C'est de toute façon le rattrapage. Alors, c'est des trucs très techniques que les confédérations syndicales connaissent beaucoup mieux que moi. Mais en gros, si vous voulez, c'est le rattrapage du point d'indice. Et c'est augmenter tous les salaires de 300 euros pour qu'ils aient au moins un rattrapage par rapport à leur pouvoir d'achat qu'ils ont perdu au cours des 20 dernières années.
Merci.
Il faut rendre attractifs les métiers. Et dernier point, vous ne faites fonctionner l'hôpital, et notamment pour les masques et le matériel de réanimation, que si la France est indépendante. Donc il faut réindustrialiser la France.
Merci Patrick Peloux, président de l'Association des médecins urgentistes de France. J'en profite pour rappeler que pour parler du Ségur de la santé, nous serons demain dans le journal de la mi-journée avec Frédéric Valtoux, le président de la Fondation hospitalière de France. Il est 12h57, vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1, présentée par Fabienne Lemoyle, avec une émission spéciale coulisses des podcasts d'Europe 1. Aujourd'hui, comment Laure d'Autriche et Sébastien Guidis ont réalisé pendant le confinement un superbe documentaire sonore avec les archives d'Europe 1 sur cette période totalement inédite. 13h, bonne suite des programmes avec Europe 1. Et avant de retrouver Fabienne Lemoyle pour Tout Terrain, le rappel des grands titres de l'info de ce samedi avec vous, Sophie Tussaud.
Les cérémonies religieuses peuvent reprendre dès aujourd'hui. C'est ce qu'a tranché le gouvernement après le rappel à l'ordre du Conseil d'État. Le décret vient de paraître au journal officiel. Tous les cultes sont concernés avec des conditions sanitaires strictes pour leur déroulement. Port du masque obligatoire, distanciation physique et désinfection des mains. Le jour J pour les maires élus dès le premier tour des municipales le 15 mars dernier a d'aujourd'hui et jusqu'à jeudi. Les conseils municipaux entrent en fonction dans plus de 30 000 villes. Ils vont pouvoir désigner les maires et les adjoints. Gérald Darmanin a été élu maire de Tourcoing lors d'un conseil municipal à huis clos mais retransmis sur les réseaux sociaux ce matin. Le ministre des Comptes publics s'affranchit ainsi de la règle qui veut qu'un membre du gouvernement ne peut pas être à la tête d'un exécutif local. Pour les autres candidats qui n'ont pas pu être élus en mars dernier, le second tour des municipales se tiendra le 28 juillet.
juin avec des règles sanitaires strictes, là aussi, et une campagne à minima, une décision réversible et soumise à l'évolution de l'épidémie. Dans le monde, l'Amérique latine a son tour épicentre de la pandémie, en particulier au Brésil, qui est désormais le deuxième au niveau mondial du nombre de cas, derrière les États-Unis, et plus de 1000 morts en 24 heures. La Chine, berceau de la pandémie, indique n'avoir recensé aucun cas de contamination aujourd'hui, une première depuis janvier. Et puis le loueur de voitures Hertz, en grande difficulté à cause de la crise actuelle, il s'est déclaré en faillite aux États-Unis et au Canada. La pandémie a entraîné une chute brutale des réservations. L'Europe n'est pas incluse dans cette procédure.
Merci Sophie Tussaud et à ce soir pour le journal de 18h.